l'histoire du droit musulman, parce que les orientalistes appliquent la critique historique aux documents anciens, comme ils l'ont appliqué aux documents chrétiens, à la Bible, l'Évangile, etc. Bon, alors, les musulmans de cette tradition-là rejettent, ils disent ça ne marche pas pour l'islam, pour protéger l'orthodoxie. Alors, vous voyez comment doit intervenir l'intellectuel pour dire non, non, pas du tout. Les textes musulmans relèvent de la même critique. Il faut les soumettre à cette critique. Alors, ça, c'est nouveau. Et moi-même, dans le travail que je fais, qui consiste précisément à intervenir en force dans ce qui constitue les fondements même de la théologie et du droit musulman, eh bien, je rencontre des difficultés auprès du public musulman qui, pour discréditer ce que je fais, disent « Vous faites un travail d'orientaliste. Vous ne faites pas un travail de musulman. » Vous voyez le clivage ?
Oui, oui, oui. C'est le fameux souci de comment dirais-je, dont vous parliez tout à l'heure, d'édification.
Oui, oui, c'est le souci d'édification.
On est à la théologie, là.
Absolument. Le souci d'édification qui, dans la période actuelle, depuis les années 50, se double d'un autre souci, qui est le souci de combattre la domination coloniale.
Oui, bien sûr, il y a aussi les
restes. Ce qui entraîne la mobilisation de l'islam comme arme idéologique.
C'est ça.
Et ce qui, par conséquent, retarde la fonction critique. On suspend la fonction critique.
Et ça, pour un occidental, c'est davantage compréhensible.
Oui.
Hein, qu'il y ait une mobilisation,
oui,
qu'il y ait
ce combat. Ils ne le savent pas. Non. Ils constatent simplement qu'il y a un vide des intellectuels.
C'est ça.
C'est tout ce qu'ils font. Ils ne voient pas la genèse de ce vide. Pourquoi ce vide ?
Voilà.
Oui, oui. Et moi-même, malgré mon engagement très, très assidu et très fort pour cette critique, il m'arrive de faire de l'autocensure. Mm-hmm. Pour respecter les besoins d'un combat engagé, d'un combat politique engagé dans la communauté pour un problème réel. Par exemple, la crise que nous traversons, je ne peux pas me permettre de condamner Saddam Hussein, l'Irak, etc., comme le fait un occidental. Je ne peux pas. Non pas parce que j'ai peur, non pas parce que j'adhère, pas du tout, mais parce que je respecte des réalités historiques que je connais et que je vis moi-même. Vous voyez ? Et je me rappelle très bien, pendant la guerre d'Algérie, j'étais jeune étudiant, déjà nous avions les mêmes problèmes. Absolument les mêmes.
Qui étaient d'ailleurs peut-être plus durs.
Plus durs à supporter parce que le combat français était directement agressif. Là. Il n'y avait pas, c'était la guerre. Hein. Donc l'idéologie de combat en France était très forte. Alors face à cette idéologie de combat, je n'allais pas faire l'intellectuel pour critiquer les massacres du FLN et les massacres. Non, c'est pas possible.
Là, vous étiez engagé totalement.
Bon, alors, et alors, deuxième raison justement, c'est la double solidarité de l'intellectuel arabe. L'intellectuel arabe sait qu'il doit beaucoup à des formations qu'il a reçues dans des universités européennes occidentales. Il reconnaît le décalage historique entre cette tradition musulmane et ce que lui offre aujourd'hui la pensée d'Occident. Il le reconnaît, il est objectif. Le reconnaissant, il vit une double solidarité. Une solidarité intellectuelle avec les chercheurs et les intellectuels critiques en Occident. Il est avec eux pleinement. C'est vraiment les compagnons de combat. Et il est évidemment solidaire avec le rythme d'évolution de sa propre société, de son propre monde arabo-islamique. Voilà ce que j'appelle les deux solidarités historiques. Bon, ces deux solidarités historiques font que, quand El Kabbach m'interroge comme il l'a fait, que pensez-vous de ceci? Pourquoi vous n'intervenez pas dans ceci? Je lui dis, écoutez, doucement, doucement, il y a beaucoup de choses à dire au préalable. Ce sont ces choses-là qu'il faut d'abord dire et faire comprendre.
C'est bien dommage qu'on ne vous ait pas donné davantage la parole.
Ben oui,
mais... Rien que ce que vous venez d'expliquer là, maintenant, c'est le préalable indispensable.
Ben, c'est pas possible. Comment? Mais... Ou alors vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas un intellectuel, encore une fois. un intellectuel, c'est ça. Il recherche où sont les vraies solidarités. Pour se battre au nom des vraies solidarités. Et les vraies solidarités, ce sont toutes celles qui vont dans le sens de l'émancipation de la condition humaine. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, dans sa tradition, il doit le dire et protester au nom de ce critère. Mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez les Occidentaux, il doit le dire aussi. Et je dirais même a fortiori. Car, pourquoi a fortiori? Parce que la pensée occidentale occupe depuis le XVIIIe siècle une position hégémonique dans tout le champ intellectuel des intellectuels qui réfléchissent. Alors la position hégémonique veut dire qu'il faut d'abord être critique vis-à-vis de ce modèle hégémonique, parce qu'il peut vous conduire vers des interprétations qui relèvent de l'hégémonie et non pas de la connaissance véritable des enjeux d'existence pour des groupes humains, ou des enjeux de sens dans une grosse aventure comme celle que nous sommes en train de vivre, ou comme celle que nous avons vécue. Celle de Rushdie, par exemple, à mes yeux, a soulevé toute une gamme de problèmes tout à fait considérables, que la pensée occidentale n'a absolument pas perçu, sauf quelques-uns. Vous voyez ? Et là, nous sommes quand même en face, justement, de phénomènes historiques de très grande envergure qui permettent de remettre en question le caractère local, le caractère provincial et le caractère hégémonique de la pensée occidentale telle qu'elle s'exerce dès qu'il s'agit d'interpréter des événements qui se passent en dehors de son propre champ historique.
Si vous voulez bien, on va faire une toute petite incise à propos de Rushdie. Quelle a été votre réaction au moment de l'affaire Rushdie?
Alors, ma réaction, que j'avais exprimée dans une interview du Monde qui avait fait énormément de bruit, c'est de dire que cette affaire-là touche à une symbolique religieuse qui n'est pas seulement une symbolique religieuse islamique. C'est une symbolique religieuse qui engage tout ce qui a conditionné le développement de la pensée religieuse dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Le phénomène de la révélation, par exemple, auquel Rushdie touche, je le mets moi-même en cause, je le mets moi-même dans l'orbite de la critique, c'est pas la question de protéger. Je ne le protège pas du tout. Mais il le remet en cause dans une conjoncture historique et avec des moyens qui portent un grave préjudice dans l'état actuel des choses aux sociétés musulmanes et qui viennent apporter un renforcement idéologique à cette position hégémonique de la pensée occidentale par rapport aux besoins actuels de la pensée islamique. Voilà en gros. Autrement dit, je dénonce cette inégalité historique et je dénonce le fonctionnement de deux idéologies de combat qui s'affrontent. Car elles s'affrontent effectivement avec virulence, en particulier depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un affrontement constant entre, l'idéologie d'Occident, qui reste une idéologie inspirée par une stratégie de domination, de contrôle, de ordre international, entre guillemets, beaucoup de guillemets, très fort, et puis ces peuples-là qui émergent à une existence de liberté pour la première fois et à travers des difficultés considérables. Voilà comment... Alors, l'intérêt de l'affaire Rushdie, c'est qu'elle place le combat directement sur le plan symbolique et non pas sur le plan ordinaire comme avec maintenant du pétrole, de l'économie, de machin, etc. Vous voyez ? Or, pour l'intellectuel, le plan symbolique, c'est son champ de prédilection. Parce que l'intellectuel, pour exercer sa fonction critique, il doit justement rechercher les racines de ce qui fait sens pour les hommes. Et les racines de ce qui fait sens pour les hommes, elles se trouvent, entre autres, pas uniquement dans la symbolique religieuse. Et je dis, et j'ai dit, j'ai écrit, que la raison des Lumières, qui a été mise en place au XVIIIe siècle, et qui a engagé tout un développement culturel et intellectuel en Occident, a consisté non pas à approfondir la compréhension de la symbolique religieuse, mais à marginaliser la symbolique religieuse, à la mettre de côté, en laissant croire que la raison des Lumières apportait des solutions à des problèmes majeur de l'organisation de notre vie en société, et en particulier de l'ordre politique et de l'ordre culturel. L'ordre politique et l'ordre culturel, à partir de la Révolution française, a été organisé sur la base d'une décision acquise par la violence et non pas par l'esprit. Sur quoi ? Sur l'instance de légitimation de tout pouvoir politique dans une société. L'instance de légitimation de tout pouvoir politique avant la Révolution française était, en islam comme en chrétienté, la symbolique religieuse. C'est-à-dire tout l'enseignement dérivé de la vision prophétique, de la révélation, de textes sacrés, tels qu'ils ont été interprétés par les communautés religieuses. Le roi était sacré à Reims, en France, pour avoir son pouvoir.
C'est exact.
Et ben, bien sûr, et partout, pas seulement en France. Mmh. La Révolution a fait quoi ? Elle a coupé la tête à Louis XVI. C'est-à-dire qu'elle a coupé toute relation avec la symbolique religieuse pour légitimer le pouvoir politique. Et elle a transféré l'instance de l'autorité de l'Église et de tous les enseignements de la symbolique religieuse à la souveraineté populaire. Mais ça, c'est un geste extraordinaire. Où est le fondement intellectuel de ce geste ? Où est-il ? C'est une solution empirique, simplement empirique, qui tient avec des procédés empiriques jusqu'à nos jours, dont nous expérimentons toujours les limites, et qui n'a en rien supprimé le questionnement sur les mécanismes de génération du sens, de ce qui fait sens pour les hommes dans leur existence. Voilà les enjeux pour moi de l'affaire Rushdie. Qui les a exprimés ainsi ? Qui en a parlé ainsi ?
La première fois que j'en entends parler.
Eh bien voilà.
J'ai eu la chance de rencontrer Rushdie avant l'affaire.
Oui.
Et j'ai pu me rendre compte que c'était un homme qui effectivement se posait des questions.
Ah oui, je suis en accord avec lui.
Hein, je l'avais rencontré ici à Paris. Et il sortait de son livre sur l'indépendance de l'Inde,
oui, oui.
Donc les enfants de minuit.
Oui, oui.
Et il se posait exactement ces
questions. Rushdie a fait, sur le plan littéraire et avec le procédé littéraire, ce que moi je fais avec le procédé de l'historien, pour la tradition islamique. C'est vous dire à quel point je suis d'accord avec lui. Mais ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est l'utilisation politique qui en avait été faite par de grands manipulateurs, Khomeini d'un côté et l'Occident de l'autre. Alors là, tout est perdu. Et alors là, j'ai dit non. Non. Et là, j'aurais dit à Rushdie, attention, fais attention.
Oui, il a donné des armes, là.
Et oui.
Sans trop le savoir, je crois.
Exactement, oui. Bon, c'est un écrivain, oui. Un artiste. Bon,
oui. Il c'est un artiste.
Il a créé, bon, ça c'est très bien, hein, mais bon. Bon, il n'est pas responsable de ce que les autres font de
ce qu'ils sont accaparés.
Mais enfin, il faut faire attention, et personnellement, je vous assure, je fais très attention à cela. Hein.
Oui, oh, oui, absolument, parce que ça permet une conversation, une vraie conversation.
Oui, oui.
Sinon, oui, on est perdu dans ses notes et on ne peut absolument pas suivre hein,
dans le développement. Oui, oui. Alors, ceci dit, pour revenir, si vous voulez, aux intellectuels, une autre raison de leur silence qu'il faut expliquer, c'est la nature des États qui, partout, se sont imposés dans les années 50 et 60. C'est ce que j'appelle les États-nations-partis, avec des traits d'union. États-nations-partis. C'est-à-dire, l'État s'identifie idéologiquement à la nation. Or, il est en même temps géré par un parti unique qui ne tolère aucune espèce de respiration démocratique à la nation dont il se réclame et à laquelle il veut s'identifier. C'est épouvantable. C'est un monstre.
Oui, mais c'est un
monstre. Et cher monsieur, ce monstre est devenu partout, depuis Nasser jusqu'à nos jours, et encore Nasser en tant que personnalité doit être traité à part, mais il y a des petits Nasser de rien du tout qui veulent le faire les Nasser et qui n'y arrivent pas. Depuis les années 50, ce sont ces États, nations, partis qui sont les interlocuteurs directs des États occidentaux. Les États occidentaux traitent avec ces États-nations partis, ils font de bonnes affaires ensemble, au mépris total des cris du peuple, des peuples, des attentes des peuples, des intérêts historiques de ces peuples. Aucun État occidental, aucun, sous prétexte du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en réalité c'est pour s'en débarrasser, ils traitent avec une entière liberté d'esprit, avec des interlocuteurs dont ils savent que politiquement, très souvent, ce sont des antidémocratiques, des oppresseurs, bref, etc. Ça, c'est énorme.
Et le cas de Saddam est clair et net.
Mais il n'y a pas que lui.
Oui, bien sûr. Mais après,
je peux les passer en revue tous. Les relations de l'État français avec l'État algérien depuis l'indépendance, analysez-les, vous êtes journaliste. Et vous verrez que ce que je dis là. Jamais la France n'a pensé au peuple algérien dont elle a conditionné l'histoire pendant plus d'un siècle. Elle n'a pensé qu'à fonder des relations de bons échanges,
oui, des bons échanges
avec l'État algérien. Point final. Alors que tous les Algériens aspirent à des libertés, en regardant en particulier vers la France. Que dire de la Tunisie ? Et que dire du Maroc ? Qui sont les pays les plus proches, justement, d'une exigence de liberté démocratique dans le style français. Et qu'a fait la France pour soutenir l'aspiration de ces peuples tout près d'elle ? Pour réaliser leur idéal démocratique appris en France, et j'en suis un témoin, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, ben voilà. Que voulez-vous alors que disent les intellectuels devant des situations pareilles? Leurs États ne leur laissent pas la liberté d'écrire et de publier, et quand même, ils jouiraient de cette liberté qu'ils trouveraient en eux. Des raisons d'autocensure. Des raisons d'autocensure qui va leur dire « Non, non, tu n'as pas à dire ces choses-là, tu sais très bien comment ça se passe. » Ça se passe au-dessus de ta tête, entre des États qui font leurs affaires, et tu ne peux pas intervenir à ce niveau-là. Voilà des raisons profondes du silence des quelques intellectuels qui existent effectivement et qui, nonobstant toutes ces difficultés, trouvent quand même le moyen de temps en temps de s'exprimer.
Vous, par exemple.
Oui, parce que moi, j'occupe quand même une position assez particulière. Je vis en France et j'ai les universités françaises, toutes les libertés qu'on peut avoir en France. Et je n'ai pour autocensure que celle que je m'impose à moi-même à la suite des analyses que je suis en train de répéter devant vous. Car je m'impose des silences, ou bien je m'impose des limites à ce que je peux dire,
une certaine réserve, disons.
Encore une fois, par respect pour les situations réelles vécues par les peuples, pas par les États. Je ne ménage pas les États.
Dans le cas maintenant, précisément de ce qui fait que je suis venu vous voir, donc de cette actualité brûlante, et qui laisse beaucoup de désarroi dans les esprits aussi, chez nous par exemple, on se demande vraiment où, quelle est la réalité, quel est le substrat historique d'abord sur lequel s'appuie un homme comme Saddam, mais il y en a eu d'autres avant lui, Qassem et d'autres. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en penser?
Eh bien, ce qu'il faut en penser, à mon avis, c'est, ça peut s'accrocher à tout ce que je viens de dire, c'est que tout ce qui peut intervenir dans les sociétés arabes en particulier, pourquoi les sociétés arabes en particulier? Parce que ce sont des sociétés qui, historiquement, sont engagées dans la compétition, dans la rivalité sans merci entre l'Europe et ce monde arabe depuis pratiquement l'apparition de l'islam. Il y a eu toujours dans l'espace méditerranéen une rivalité sans merci conduite sous l'autorité du christianisme d'abord et des états chrétiens, ensuite sous l'autorité de l'Occident industrialisé et de l'Occident moderne séculier depuis le XVIIIe siècle. Rappelez-vous toutes les luttes de l'Empire ottoman et de l'Occident depuis le XVIe siècle.
Y compris le croissant fertile, bon. Etc.
Donc si on voit cette perspective historique, on s'aperçoit que le monde arabe est directement lié historiquement au destin de l'Occident.
Constamment.
Donc tout ce qui peut intervenir là, on n'a pas le droit de le juger uniquement en tant que production de l'intérieur de la société. Saddam Hussein, Khomeini, Moubarak, Sadat, vous pouvez prendre tous les dirigeants, n'est-ce pas? Ce sont d'abord des produits liés, je ne dis pas exclusifs, liés à cette dialectique constante entre la stratégie de l'Occident et les efforts des peuples pour se libérer. Voilà le premier éclairage. Si on tient compte de ce premier éclairage, immédiatement vous allez comprendre pourquoi Saddam Hussein, quel que soit par ailleurs les traits du personnage, quels que soient les traits du personnage sur lesquels les journalistes ont beaucoup écrit. Bon, je n'entre pas là-dedans, pour moi c'est peu intéressant. Il n'empêche que cet homme a fait éclater devant la scène internationale un ordre de violence structurelle qui existait dans la région. Il l'a montré au grand jour. C'était couvert par le langage feutré des instances internationales. C'était bien conservé par les grands échanges financiers, les grands mouvements de capitaux. Ça marchait très bien. L'ordre du pétrole, comme dit officiellement Baker, l'ordre du pétrole lié à l'ordre financier, que veut l'Occident de plus? Et c'est un fait qu'historiquement, le dessin politique des Émirats, je veux dire la carte géopolitique des Émirats, c'est une création de l'Occident pour contrôler le marché du pétrole. Et pour récupérer par les voies que nous connaissons très bien, l'argent qui, soi-disant, sortait de l'Occident pour payer ce pétrole. Tout est pour l'Occident. Et cet ordre-là est nommé ordre international. Voilà pourquoi lorsque les grands, enfin les chefs d'État actuels, y compris notre président, dit « il faut le retour au droit », D'accord. Le retour au droit, mais à quel droit?
Ça dépend ce droit inspiré par l'ordre occidental.
Ah ben justement. Mm-hmm. Quand est-ce que dans des instances internationales ouvertes, le droit de tous ces peuples à leur émancipation historique comptera véritablement dans la définition de l'ordre international? Quand? Jusqu'à présent, il y a des problèmes, nous le voyons très bien, qui ont été escamotés, recouverts, sous le bon nom de droit international et d'ordre international, mais qui sont fondés sur une absence totale d'éthique dans les rapports internationaux. Et parce que Saddam Hussein a fait éclater, a déchiré le voile par un acte de violence qui oblige toutes les chancelleries à poser ces problèmes, mais qu'est-ce que vous voulez? Les peuples qui attendent une liberté sont reconnaissants à Saddam Hussein et oublient immédiatement tous les reproches que par ailleurs ils pourraient faire à Saddam Hussein.
Oui, précisément, on peut lui en faire des reproches car...
Ceci dit, j'explique, moi je ne prends pas position.
D'accord. Mais par exemple, on ne peut quand même pas... Je crois que la conscience islamique ne peut pas admettre que Saddam Hussein ait par exemple utilisé l'argent du pétrole pour s'armer. Ça, c'est un but tactique, bien entendu, mais aussi pour fort peu développer l'économie de sa population qu'il avait quand même en charge, étant donné qu'il a pris le pouvoir depuis une quinzaine d'années.
Encore une fois, je ne vais pas défendre Saddam Hussein ni ce qu'il fait, ce n'est pas la question. Mais examinons cet argument qui a été effectivement utilisé. Il a utilisé l'argent du pétrole pour acheter des armes.
Pas uniquement, mais en tout cas, il a, disons, privilégié plutôt l'armement que le développement.
Bien sûr. Mais considérez donc le budget de l'armée dans les grands pays occidentaux. La France vient d'avoir un débat sur le budget militaire. Et vous savez ce qui est dit. Bon, ceci est une chose. La deuxième chose, c'est que dans cette région, vous savez très bien qu'il y a le problème d'Israël.
Oui, sûrement.
Qui, lui, est très très bien armé. Il ne manque de rien. Alors, vous allez faire la morale à Saddam Hussein ou à un autre en leur disant, mais veillez donc à votre peuple, ne pensez pas aux armées. On ne peut pas faire une chose pareille lorsque la carte géopolitique du Moyen-Orient est ce qu'elle est.
Et disons qu'il y a eu excès.
Troisième considération.
Il y a eu excès.
Troisième considération, n'est-ce pas? Il y a encore aujourd'hui une attente considérable de libération des peuples. Et cette libération ne peut pas se faire par des négociations en chancellerie. Parce que la fin officielle et juridique de l'occupation coloniale, pour la plupart de ces pays, remonte aux années 50, début des années 60. Et l'on a parlé de coopération, et l'on a parlé d'entraide, etc. Et analysons et voyons ce qui s'est passé pendant 30 ans. Voilà des choses, des bilans qu'il faut faire. Ces peuples sont en attente de libération. Et ce qui est plus tragique pour ces peuples, c'est que les États, nations, partis, issus des guerres de libération, loin de concevoir une politique réelle de libération pour leur peuple, ont presque dans leur généralité aggravé les conditions d'évolution historique de ces peuples en pactisant, en traitant, comme ils l'ont fait, avec ces mêmes États occidentaux. Donc vous voyez là, il faut quand même être un peu l'avocat des peuples. L'avocat des peuples, moi je parle des peuples, beaucoup plus que des États.
Maintenant, il y a un argument historique que lui et d'autres avant lui ont utilisé et utilisent, c'est que, en fait, ce Koweït était une fiction cet État et que c'était simplement le prolongement naturel de l'Irak, que c'était une province et que donc réapproprier une province, c'est une chose tout à fait naturelle, tout à fait normale. Comment voyez-vous cet argument sur le plan historique ?
Oui, alors, sur le plan historique, il est exact que, pas pour le Koweït seulement, mais si nous regardons l'ensemble de la carte du monde,
oui.
L'ensemble de la carte du continent africain et du continent asiatique, nous découvrons que ce sont des tracés absolument arbitraires qui sont partout liés à des rapports de domination.
C'est ça.
Qu'il s'agisse de la Russie, ou qu'il s'agisse de l'Europe, ou qu'il s'agisse de l'Amérique là-bas, partout, nous avons des rapports de domination. C'est une mission humaine, ça. Il n'y a pas à donner un bon point à celui-ci. Et... Non, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, si nous voulons véritablement réfléchir à un ordre mondial vraiment nouveau, démocratique, et se rapprochant d'une véritable éthique internationale, personnellement, je dirais que il faudrait effectivement réviser beaucoup de frontières géopolitiques actuelles qui sont le résultat de coups de force et de domination, les réviser en fonction des réalités ethnoculturelles qui s'imposent d'elles-mêmes, comme par exemple le monde kurde. Voyez le monde kurde, comment il est absolument déchiré entre cinq pays qui tous ont en commun un totalitarisme nationaliste, la Russie de Staline et de Lénine et de Brejnev, qui est seulement en train de commencer à respirer, et là un morceau du monde kurde, l'Iran du Shah ou de Khomeini, l'Irak de Qassem ou de Saddam ou de n'importe qui, n'est-ce pas? C'est pas seulement Saddam. On ne peut pas faire carreau sur le baudet. La Syrie, assez kurde avec les régimes syriens qui se sont succédés.
Et nous parlons pas de la Turquie.
Et la Turquie. Alors, voilà un exemple.
Enfin, aucun de ces États n'a gazé quand même les Kurdes comme ils ont été gazés récemment.
D'accord, mais pour
sans moi, que personne ne proteste.
Eh oui. Scandale absolu. Qui montre justement l'absence criante de toute référence éthique dans ce fameux droit international que l'on défend et qu'il faut défendre, bien sûr. Parce que sinon, c'est la jungle. C'est pas possible. Il faut le défendre. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette défense et poser les problèmes réels des frontières dans la carte mondiale, dans la carte du monde. Entre l'Inde et le Pakistan, il y a le Cachemire, pour lequel ils sont en train de se battre. Et vous allez comme ça partout. Alors, le tort des journalistes, si je peux me permettre, enfin c'est ce qui toujours me hérisse, c'est que chaque fois qu'il se produit un problème, il se concentre absolument sur ce problème. Il n'y a que cela, et il n'évoque jamais les contextes, et il n'apporte pas au public des moyens de devenir exigeant sur les solutions à apporter. Tout le public occidental actuellement croit que si on liquide Saddam, ça y est, le problème est terminé, on passe à autre chose. Mais enfin, et que font les journalistes pour chaque fois dire attention ? C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et notre tâche pour demain est infinie. Et nous sommes responsables de cette tâche. Ce n'est pas eux seulement qu'il faut accuser. Ben, ce langage-là, ce discours, cette pédagogie des peuples, malheureusement, n'existe pas.
Car il y a des journalistes qui s'appellent à bonne source.
si peu que malheureusement c'est toujours une petite goutte d'eau dans une immensité. Dans une immensité. Bon, vous savez, vous pouvez prendre toute la presse internationale autour des grandes affaires qui ont provoqué justement des débats de ce type. Vous pouvez les collectionner. Ben, vous verrez que ça fonctionne toujours de la même façon. Et voilà pourquoi les progrès ne sont pas grands. Regardez, encore un exemple frappant, Je ne sais pas si vous avez suivi cette émission sur la guerre d'Algérie sur
FR. Non, je ne l'ai pas suivi.
C'est très dommage pour vous, journalistes. Parce que, bon, on peut beaucoup dire évidemment sur un film, sur une guerre aussi compliquée.
Très difficile.
Très difficile à faire. Mais ce qui est caractéristique, c'est qu'après 30 ans, à la fin des émissions, il y en a eu 4 ou 5, c'était dimanche, donc hier. Ils ont invité un tas de gens du côté algérien et du côté français, presque tous ont refusé de venir. Bon, 30 ans. Et les Algériens et les Français ont refusé de venir au débat sur le film pour discuter seulement le film. Et essayer de donner à la jeune génération de Français née dans les années 60 une vision d'un problème infiniment éducatif. Pour aborder nos problèmes, justement, car pour moi, qui ai vécu ô combien intensément la guerre d'Algérie, je vous assure que ce qui se dit maintenant, et les rapports de force, et les protagonistes, et tout ça, c'est la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie.
C'est une répétition.
Absolument, absolument, absolument. Et c'est ça qui vraiment est extraordinaire de... Les chefs d'État et tout ça, les hommes politiques, vous voyez comment ils parlent. Saddam, c'est tout. Non. Et je dirais que Saddam, encore une fois, je ne juge absolument pas son personnage et sa politique. Ce n'est pas mon affaire. Mais historiquement, je crois pouvoir dire que ce qu'il vient de faire sera inscrit comme un moment important de la mise à nu de problèmes qui, au lieu d'être correctement posés et solutionnés par les instances internationales, ont été soigneusement recouverts de cet immense voile que l'on appelle ouvertement l'ordre du pétrole et l'ordre financier mondial. Et bien ça, c'est ça, quand on fait ces choses-là, à cette échelle mondiale, on n'est pas habilité à venir parler du droit international. On n'est pas habilité. Je dis toujours, où est l'instance de l'autorité? Car un des enseignements absolument précieux et fondamental des trois religions du livre, pour revenir aux religions, c'est qu'elles nous ont enseigné qu'il y a une instance de l'autorité qui transcende tous les pouvoirs. Et que sans une référence et un respect de cette instance de l'autorité, il ne peut pas y avoir de pouvoir légitime. Ça n'est pas possible. Je ne veux pas du tout dire que il faut revenir à cette instance religieuse de l'autorité. Hein.
Bien entendu. Sûr,
hein. Ça, il faut la retravailler. Oui, il faut... Oui. Oh là là, non.
Tout votre développement du début.
Non, absolument. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein, parce que ça, c'est dangereux. Tout de suite, les laïcs vont dire, oh ça y est, il fait son petit Khomeini. Non, pas du tout. Je veux dire simplement que dans l'effort démocratique entrepris en Europe depuis le XVIIIe siècle, pour construire des pouvoirs légitimes. Il me semble qu'on a perdu de vue l'instance de l'autorité. Et ça, vous pouvez le remarquer, parce que j'ai fait des études là-dessus, même dans le dictionnaire Larousse. Oui, regardez le mot autorité et le mot pouvoir dans le dictionnaire Larousse. Vous allez voir un immense article pour pouvoir et quelques lignes pour l'autorité. Eh oui, cher monsieur, petite remarque comme ça, ça vous en dit long sur les préoccupations véritables et de l'intelligence et de la pensée politique. Alors qu'avant 1789, vous avez tous les traités de théologie qui vous parleront de l'auctoritas contre la potestas. Et oui, voilà ce que dit l'historien. Ouvrez saint Thomas d'Aquin, et ouvrait le Larousse actuel.
Ça, mes lecteurs vont être un peu secoués là.
oui, regardez.
Intéressant.
Et oui. L'attention portée à l'auctoritas. L'auctoritas vient de Dieu. C'est l'absolu de Dieu. Mm-hmm. C'est le critère absolu qui relativise toutes les décisions humaines. Et donc tous les pouvoirs humains. Ce n'est pas l'autorité du clergé, de l'Église, qui elle-même est un pouvoir. Et confond l'auctoritas et la potestas à son bénéfice. Ce qui va amener à 1789. Pour renverser cette hypocrisie. Et on a bien fait de la renverser. Mais on n'a rien mis à la place. Et on a oublié le débat en cours de route. Maintenant, en laissant croire qu'on l'a résolu. On fait voter, suffrage universel, tout le monde s'est exprimé, allons-y, c'est terminé.
Maintenant, est-ce que le monde arabe peut connaître en 1789 Est-ce que...
Il est en train de connaître des mini-89. À travers tous ces événements.
C'est ça.
Et il ne peut pas connaître un 89 de la même façon, parce que sociologiquement, ce qui caractérise toutes les sociétés arabes, c'est l'absence d'une classe sociale qui jouisse d'une continuité historique comme la bourgeoisie dans les pays d'Europe.
Ça
n'existe pas. C'est la bourgeoisie qui a porté le flambeau de cette lutte en Europe. Parce qu'il y a eu un mouvement économique et social en Europe qui a permis à cette classe sociale de se renforcer progressivement, de conquérir des franchises politiques, et tout en ayant ces franchises politiques, donc de nouveaux droits, elle a continué son travail de renforcement économique. Et l'histoire de la bourgeoisie en Europe est tout à fait exemplaire pour comprendre comment une société peut être soulevée par une classe qui jouit de la continuité historique, alors que du côté arabe, il n'y a jamais eu, jamais au cours de l'histoire, une continuité historique d'une classe quelconque. Ni des clercs, ni d'une bourgeoisie marchande qui a existé de façon épisodique, mais sans continuité, parce que nous sommes en Méditerranée.
Et est-ce que ce décalage historique n'a pas quelque chose d'un peu tragique?
Bien sûr, c'est la tragédie actuelle des pays arabes, vous l'avez.
Parce qu'il y a un décalage.
Considérable. Tout à fait. Mais nous le vivons. C'est ça notre croix, c'est ça. C'est l'islam n'a pas de croix, mais il la vit sans le symbole. Oui, c'est ça la croix des pays arabes.
Parce qu'alors, on peut remonter aussi à Rushdie, on peut remonter à Khomeini, on peut remonter à toute une série d'épiphénomènes ainsi. Qui se ramène à ce décalage.
Absolument, oui, décalage historique considérable et que, effectivement, j'essaye toujours de faire revenir dans l'explication pour essayer d'ouvrir un champ nouveau de solidarité historique entre ce foutu monde occidental qui est tout de même très égoïste et puis ce foutu monde arabe qui, lui aussi, du moins au niveau de ses dirigeants politiques, ne fait pas d'analyse correcte de la situation, parce que les dirigeants politiques, malheureusement, n'écoutent pas aussi leurs intellectuels, au contraire, ils leur ferment le bec.
Et cela dans toutes les sociétés arabes actuelles?
Oui, absolument.
C'est une sorte de...
Ah oui. Moi, je vois avec mes étudiants ici à Paris, la plupart d'entre eux voudraient rester ici.
À cause de ça?
Oui, malgré la critique qu'ils font.
Oui.
Mais quand même, ils respirent quand même ici, mieux que ou en Belgique ou en Hollande. Moi-même, pourtant je suis ici depuis très longtemps, je vous assure, je respire, alors que quand je vais là-bas, c'est autre chose, c'est immédiat.